Vous entendez ce silence ? C'est le calme avant la révolte. Une révolte qui va faire basculer la vie de tout un équipage et marquer à jamais l'histoire de la navigation.
Je fis tout mon possible pour ramener l'un ou l'autre au sentiment de la subordination. Mais ce fut en vain. Leur réponse constante fut « Taisez-vous, ou vous êtes un homme mort ».
En avril 1789, au beau milieu de l'océan Pacifique, des marins du Bounty, un navire de la couronne britannique, se révoltent. Ils abandonnent dans une chaloupe leur capitaine avec 18 hommes qui lui sont restés loyaux. Dans cette petite embarcation surchargée, quasiment sans provisions, à des milliers de kilomètres de la première colonie européenne, le sort du commandant déchu et de ses compagnons d'infortune semble scellé. Les mutins, eux, devenus maîtres du navire et de leur destin, mettent les voiles à la recherche d'une île paradisiaque et isolée pour se cacher.
C'est quoi ce bout de terre qu'on voit, lieutenant ?
Ça, c'est l'île de Pitcairn.
Pour les deux groupes, c'est un saut dans l'inconnu. L'avenir est incertain. Des deux côtés, il y aura des morts, mais aussi des survivants. Leurs récits passionneront le monde entier. Des écrivains comme Jules Verne et Lord Byron s'en empareront. Plus tard, l'histoire des révoltés du Bounty sera portée à l'écran avec quelques arrangements avec la vérité. Alors, que s'est-il réellement passé sur ce navire ? Et qu'est-il advenu du capitaine abandonné et des mutins en cavale ? Ce sont ces histoires vraies de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène au milieu du Pacifique, dans le sillage de ces marins que la colère a projetés au bord de l'abîme et qui sont parvenus à échapper à la mort in extremis. Avril 1789. Quelque part au sud du gigantesque océan Pacifique, les premières lueurs de l'aube éclairent faiblement un trois-mâts parfaitement immobile. Pas un souffle de vent. Les voiles du Bounty pendent mollement le long de ces mâts. La mer est particulièrement calme ce matin, mais à bord, quelque chose se trame. Sur le pont, encore désert, trois ombres se faufilent. Elles échangent quelques paroles en chuchotant, puis disparaissent. Soudain, le second du navire, Fletcher Christian, surgit dans l'entrepont, un sabre à la main. Il est suivi de plusieurs matelots armés de coutelas, de pistolets et de fusils à baïonnette.
Pas de bruit surtout, mes amis. Armez votre pistolet, mais ne tirez pas sans mon ordre.
Le petit groupe se dirige d'un pas décidé vers la cabine du capitaine.
Une dernière recommandation. Il me le faut vivant.
D'un violent coup d'épaule, deux hommes enfoncent la porte et les matelots s'engouffrent dans la cabine. Réveillé en sursaut, le capitaine du Bounty, William Bligh, saute de son lit.
Hola, qu'y a-t-il ? Qui ose se permettre ?
Silence, Bligh. Et n'essaye pas de résister, ou je te baïonne.
Ils me saisirent, me lièrent les mains derrière le dos et menacèrent de me tuer à l'instant si je parlais ou si je faisais le moindre bruit. Leurs menaces ne m'empêchèrent pas de crier de toute ma force pour avertir l'équipage. Mais ils s'étaient déjà emparés des officiers qui n'étaient pas de leur complot et avaient placé des sentinelles à leur poste.
Sans aucune difficulté, Fletcher Christian vient de prendre le contrôle du Bounty. La plupart des marins à bord assistent à la mutinerie sans véritablement y prendre part, sans non plus voler au secours de leur capitaine. Pourquoi Christian et ses complices prennent-ils le risque de commettre l'irréparable, l'acte le plus grave qu'un marin puisse commettre sur un navire, une mutinerie ? Et pourquoi le capitaine Bligh est-il si peu soutenu par son équipage ? La fiction a fait du commandant du Bounty un personnage cruel et tyrannique avec ses hommes. Mais l'analyse des archives historiques révèle que William Bligh était l'un des capitaines les moins physiquement violents de la marine britannique à son époque. Le légendaire capitaine Cook, par exemple, avait bien plus souvent recours au fouet que lui pour punir ses hommes. Alors, quelles sont les véritables causes de la mutinerie du Bounty ? Des générations d'historiens se sont penchés sur la question. Tous ne sont pas d'accord. Pour vous faire votre propre idée, il faut remonter le long parcours du bateau à travers les océans et plonger dans les méandres de la relation complexe qui se noue au fil du voyage entre les deux principaux personnages de cette histoire. Le capitaine William Bligh et l'homme en qui il a peut-être le plus confiance à bord, Fletcher Christian. Remontons donc 16 mois en arrière, au tout début du voyage.
Chacun à son poste, paré à parier. À vos ordres.
Le 23 décembre 1787, le Bounty quitte l'Angleterre avec à sa tête le lieutenant Bligh. La mission que lui a confiée le roi George III est de la plus haute importance. Dans les colonies des Antilles britanniques, on manque de nourriture bon marché pour nourrir les esclaves. Alors, un éminent botaniste, Sir Joseph Banks, a eu l'idée de mettre à profit les récentes découvertes faites lors des grandes expéditions d'exploration, comme celle de Cook ou Bougainville, dans les très lointaines îles polynésiennes. Ces voyages ont notamment permis de découvrir l'arbre à pin, dont le fruit constitue une des sources principales de nourriture des habitants de Tahiti.
C'est une très bonne nourriture qui peut remplacer le blé.
L'idée de Joseph Banks est d'aller chercher des plants d'arbre à pin à Tahiti, au milieu du Pacifique, pour les transporter jusqu'aux Antilles britanniques, dans la mer des Caraïbes, afin de nourrir les esclaves à moindre frais. Le Bounty a dû être entièrement réaménagé pour cette mission.
Arrêtez les gars, regardez, des pots vides.
Qu'est-ce que tu as là ?
Ce sont des documents scientifiques, des croquis en réalité, des dessins de l'arbre à pin.
Toute la partie arrière du navire a été transformée pour pouvoir contenir 500 pots et autant de plants. Un système très élaboré d'arrosage et de récupération d'eau, ainsi qu'un chauffage pour les latitudes fraîches, ont dû être installés. Le bateau doit pouvoir se transformer, le moment venu, en jardin flottant. Cette place réservée aux plantes réduit celle dont dispose l'équipage sur cette frégate de taille très modeste. Sa coque mesure un peu moins de 28 mètres de long pour 7,5 de large. Les 45 hommes de l'équipage, auxquels s'ajoute un botaniste, David Nelson, et son assistant William Brown, devront se serrer. En raison du manque de place, il a fallu renoncer à embarquer des fusiliers marins. Habituellement, ces militaires assurent ordre et discipline sur les bateaux de la Royal Navy, la marine royale britannique. Le commandant William Bligh ne pourra donc pas compter sur eux pour asseoir son autorité. Sa charge de travail sera d'autant plus lourde qu'il jouera aussi le rôle de commissaire de bord, d'intendant si vous préférez. C'est lui qui gérera les comptes, un surcroît d'activité certes, mais aussi un moyen de s'assurer des revenus complémentaires. Pour faire face à toutes ses responsabilités, Bligh a choisi personnellement plusieurs membres de son équipage. Parmi eux, Fletcher Christian, 24 ans. Il embarque comme officier, c'est un ami de sa belle famille. Il a déjà navigué sous les ordres de Bligh. Ce dernier a confiance en lui et le jeune homme semble éprouver une certaine admiration pour son supérieur. Il y a de quoi être admiratif. Le commandant Bligh, âgé de 33 ans, a une solide expérience de la navigation dans les mers lointaines, encore peu connue à cette époque. Il a notamment participé en qualité de maître d'équipage à la troisième expédition du capitaine Cook jusqu'à Tahiti. Les qualités de marin du commandant William Bligh ne sont plus à démontrer et elles sont mises à l'épreuve dès le début du voyage. Moins d'une semaine après son départ, le Bounty essuie une violente tempête. Ses mâts de rechange sont emportés, ses chaloupes défoncées et une partie de ses provisions détruites. La frégate doit faire escale aux Canaries pour réparer et se réapprovisionner. Mais pas de quoi entamer l'optimisme du commandant Bligh.
10 janvier 1788. Tout mon équipage est en bonne santé et a un excellent moral.
Provisions à bord, paré à amener, lieutenant.
Bligh semble réellement soucieux de la santé de son équipage. Il décide de répartir ses hommes en 3 équipes de veille et non 2, comme il est coutume de le faire à l'époque. Ce roulement de 3 équipes permet des temps de repos plus longs. Cette nouvelle organisation conduit également le capitaine à promouvoir Fletcher Christian, à qui il donne la responsabilité de la 3e équipe. Christian donne entièrement satisfaction. Il est apprécié de l'équipage. Bly a davantage confiance en lui qu'en John Fryer, son officiel second. C'est ce qui le conduit, peu de temps après avoir passé l'équateur, à nommer Christian lieutenant adjoint, ce qui revient à lui donner le statut de second à bord. Une nouvelle promotion pour Christian, un camouflet pour Fryer qui, de fait, se retrouve rétrogradé. Bly veut rattraper le temps perdu au début du voyage et gagner au plus vite les archipels polynésiens.
La route du Cap Horn nous fera gagner 5 mois sur notre voyage.
La vie à bord est bien réglée. Le bateau file droit, son équipage aussi.
Au poste de manœuvre ! Au poste de manœuvre !
Seule ombre au tableau, les sautes d'humeur du capitaine Bly qui créent des tensions à bord. Le plus souvent, les colères du commandant tournent autour de la nourriture. Un jour, persuadé qu'il manque 2 fromages dans un tonneau, Bly ordonne d'en supprimer la distribution jusqu'à ce que les fromages manquants soient restitués. À la place, les marins ne reçoivent qu'une ration de beurre, mais ils la refusent, arguant que ce serait reconnaître le vol supposé. Plus tard, Bly entre dans une colère noire devant le refus des marins de manger des citrouilles avariées.
« Maintenant que je vois celui qui osera refuser la citrouille, ou n'importe quel plat que je vous ferai servir, vous m'entendez, coquin de l'enfer. Je vous ferai manger de l'herbe, ou pire encore avant que j'en ai fini avec vous !»
Cet éclat de voix est rapporté par le second maître d'équipage, James Morrison. Dans son journal, celui-ci ajoute que face aux protestations récurrentes concernant les trop maigres rations, Bly finit par rassembler l'équipage.
Il leur dit alors que tout ce qui concernait les provisions était fait sous ses ordres. Il ajouta qu'il ferait sérieusement fouetter le premier à se plaindre et les renvoya avec ses menaces. Les marins s'abstinrent de murmurer ou de se plaindre. Les officiers ne prirent pas si bien la chose. Ils murmuraient souvent sur la maigreur de leurs rations, sans pouvoir s'habituer à une telle injustice.
En tant qu'intendant, Bly veut rendre ce voyage le plus lucratif possible. Chaque économie réalisée est pour lui la promesse de gains supplémentaires. Voilà pourquoi il se montre aussi peu généreux, voire franchement pingre avec la nourriture. Le Bounty atteint la pointe du Cap Horn début avril. Le bateau fait alors face à des tempêtes d'une rare férocité. Pendant des jours et des jours, le navire est rudoyé par des vagues gigantesques et des vents d'une extrême violence dont la direction ne cesse de changer.
Avec tout ce mauvais temps, nous avions encore le dépit supplémentaire de constater tous les soirs que nous reculions.
La mer déchaînée se montre intraitable. Après 3 semaines à lutter contre les éléments, le capitaine Bly renonce.
« 18 avril 1788. Monsieur Bly rassembla les hommes de l'équipage sur l'arrière. Leur ayant renouvelé ses remerciements pour avoir accompli leur devoir sans défaillance, il les informa de son intention de faire route sur le cap de Bonne-Espérance. Le franchissement du Cap Horn ne lui paraissait impossible. Cette nouvelle fut reçue avec joie et, selon la coutume, saluée de 3 hurrahs.
Virez de bord, je vous prie. À vos ordres.
Bly met le cap vers l'est. Il va retraverser l'Atlantique pour joindre le Pacifique par l'océan Indien. L'équipage est très éprouvé. 8 marins sont malades, les autres sont épuisés. Mais ils tiennent bon et atteignent le 23 mai 1788 le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique. 1 mois d'escale pour réparer, se refaire une santé et se réapprovisionner, et les marins reprennent la mer.
La barre dessous.
La barre dessous.
Vous gardez bien au sud-sud-ouest.
Sud-sud-ouest, lieutenant.
Le 20 août, nouvelle escale dans la baie de l'Aventure, en Tasmanie. Et le 26 octobre 1788, soit 10 mois après avoir quitté l'Angleterre, le trois-mâts touche enfin au but. Les marins voient se dessiner à l'horizon l'île de Tahiti. Le Bounty, qui vient de parcourir plus de 50 000 km à travers trois océans, s'avance lentement dans la baie de Matavai. Des pirogues affluent vers lui de toutes parts. Des Tahitiens et des Tahitiennes, après s'être assurés des intentions amicales du navire, montent à bord en nombre. La nouvelle de l'arrivée du bateau anglais se propage vite à terre. Le chef local fait envoyer quantité de victuailles en signe de bienvenue. L'accueil est chaleureux, les relations s'annoncent cordiales et même un peu plus. Bligh autorise les Tahitiennes, qui sont montées à bord, à rester sur le bateau pour la nuit. Dès le lendemain, le capitaine du Bounty pose le pied sur la terre ferme. Il retrouve les chefs locaux dont il avait fait la connaissance lors de son précédent voyage avec le capitaine Cook.
Toi, monsieur Bligh.
Le roi George m'a chargé de faire ses compliments au roi Iti-Iti.
Je parlais, toi parlais.
Bligh reçoit à nouveau des cadeaux, un cochon et des fruits. En retour, il offre de nombreux présents.
Voudrais-tu dire au roi Iti-Iti que le roi George lui envoie quelques cadeaux d'amitié ?
Hachette, lime, vrille ou encore scie, les objets en métal ont beaucoup de succès. Enfin stratège, Bligh ne révèle pas l'objectif de sa mission. Il met en confiance les chefs. Puis il amène habilement ses interlocuteurs à lui proposer ce qu'il est venu chercher.
C'est en raison de la grande bonté du peuple tahitien que le roi George a désiré lui être utile en lui faisant parvenir ses cadeaux. Et vous, n'enverrez-vous rien au roi George ?
La réponse ne se fait pas attendre.
Hiti hiti dire vouloir donner roi George beaucoup.
Le chef local se lance alors dans l'énumération des différentes choses qu'il aimerait offrir et finit par mentionner
Uru,
l'arbre à pain.
C'est bien ça, Uru.
Hiti hiti a dit, toi peux prendre tout arbre à pain que tu veux.
C'était précisément là que je désirais l'amener. Profitant d'une occasion qui paraissait accidentelle et non préméditée, je lui dis que les arbres à pain plairaient beaucoup au roi George, sur quoi il promit d'en faire mettre un grand nombre à bord, et fut au comble de la joie de voir qu'il lui était aussi facile d'envoyer quelque chose d'agréable au roi George.
Commencent alors les opérations pour mettre en pot des centaines de plants d'arbres à pain. Bligh charge Christian de superviser les travaux à terre, tandis que lui restera à bord du Bounty. L'escale s'annonce longue. Il va falloir attendre plusieurs mois pour s'assurer que les arbres transplantés s'enracinent bien et ne dépérissent pas dans leur peau. Ces mois d'attente vont être vécus très différemment par le commandant Bligh et par son second Christian. À bord de son bateau, Bligh, engoncé dans son uniforme, gère l'intendance et reçoit les chefs pour d'interminables discussions alternant diplomatie et négoces. À terre, les journées de son subordonné Christian sont beaucoup plus agréables. Les opérations de transplantation sont loin d'occuper tout son temps. Lui et les hommes qui l'accompagnent profitent de la douceur de l'île et de ses fêtes. Il multiplie les conquêtes amoureuses et les aventures d'un soir. Bligh, lui, reste parfaitement chaste. La douceur de l'île ne semble pas avoir attendri le tempérament du commandant sur son bateau. Au contraire, celui-ci se révèle de plus en plus irascible et sévère. Il fait fouetter des matelots auxquels il reproche d'avoir laissé des autochtones dérober les ferrures du gouvernail d'un des canots. Pour ne rien arranger, Bligh se montre toujours aussi peu partageur avec la nourriture. Selon Morrison, il s'empare même de ce qui ne lui appartient pas vraiment.
Comme le commerce des ports avec les indigènes commençait à se ralentir, M. Bligh pratiqua des saisies en règle sur tous ceux qui arrivaient à bord, petits ou gros, morts ou vifs. Il les confisquait comme étant sa propriété personnelle. Il s'empara également de tous ceux qui appartenaient au second M. Christian et les fit abattre pour servir à la nourriture de l'équipage. Quand le second lui dit que ces ports étaient sa propriété, le capitaine lui répondit
« Je me charge de vous faire comprendre qu'ici, toute chose m'appartient dès l'instant où elle se trouve à bord. Je voudrais bien voir qui oserait protester. »
Seul maître après Dieu sur son bateau, le capitaine Bligh tense de plus en plus souvent son second Fletcher Christian en public. Celui-ci vit très mal ses humiliations à répétition. il fait tout pour donner satisfaction à ce commandant qui, après lui avoir manifesté sa confiance, le réprimande continuellement. Ce revirement plonge le jeune officier dans un profond désarroi. À la mi-janvier 1789, alors que cela fait 3 mois que le Bounty est arrivé à Tahiti, un incident plus sérieux survient. Un matin, on découvre qu'un canot a disparu. 3 hommes manquent à l'appel. Il s'agit du capitaine d'armes Charles Churchill et de 2 matelots, William Musprait et John Millward. Ils ont déserté, emportant avec eux 8 fusils et des munitions. Bligh est foudrage. Grâce à l'aide des chefs autochtones, les fugitifs sont retrouvés sur une île voisine. Ils se rendent sans aucune résistance. Churchill est condamné à 24 coups de fouet et les 2 matelots 48. Bligh en veut également aux officiers dont la négligence a permis cette désertion. Une pluie de reproches et de menaces s'abat sur eux.
Je m'efforçais de leur montrer que bien qu'ils fussent pour l'instant exempts d'un châtiment analogue, ils se trouvaient pourtant également exposés par les articles du règlement à une punition exemplaire.
Bligh se rend-il compte du fossé qui est en train de se creuser entre lui et ses hommes? Malgré les sanctions, les coups de fouet et les menaces du commandant, l'autorité du bord est en train de se dissoudre dans les plaisirs hédonistes de l'île. L'équipage du Bounty se démobilise et en vient à commettre de graves erreurs. Dans le journal de bord, les griefs du commandant s'accumulent.
Ce matin, la soute aux voiles ayant été vidée pour aérer les voiles à terre, la voile de misaine, la grand voile d'été et la trinquette de rechange ont été trouvées fortement couvertes de moisissures et pourries en bien des endroits. Il n'est guère de négligence professionnelle qui puisse revêtir un caractère aussi criminel que celle-ci.
Si le bateau n'est pas entretenu comme il le devrait, à terre, les opérations de transplantation donnent satisfaction. Fin mars, plus de 1000 plants d'arbres à pin ont pris place à bord du Bounty. Quelques autres espèces de plantes complètent cette véritable pépinière flottante. Le 4 avril 1789, tout est prêt pour le grand départ.
Au poste de manœuvre ! Au poste de manœuvre !
Au moment des adieux, les Tahitiens manifestent autant de peine à voir partir l'équipage anglais qu'ils avaient eu de joie à l'accueillir 5 mois et demi plus tôt. Le Bounty lève l'ancre. Bligh pense qu'il va devoir reprendre en main ses hommes après plus de 5 mois de liberté et de plaisir en tout genre. De leur côté, les marins du Bounty ont certainement de la peine en voyant s'éloigner les côtes tahitiennes. Mais à en croire le récit du second maître d'équipage, James Morrison, ils ne sont pas si mécontents de reprendre la mer après cette longue escale.
Chacun semblait de très bonne humeur et commençait déjà à parler du pays, supputant la durée du voyage et comptant son salaire. À les entendre, on aurait cru qu'ils venaient de quitter la Jamaïque, et non Tahiti, tant leur imagination les entraînait vers l'avenir.
Les matelots se projettent déjà dans la dernière partie du voyage, lorsqu'ils quitteront les Antilles britanniques. Les marins du Bounty ont bien l'intention d'aller au bout de leur mission. Aucun complot ne se trame dans l'ombre. Personne à bord de ce bateau ne projette de se mutiner. Trois semaines après le départ de Tahiti, le Bounty fait escale pour se ravitailler à Nomuka, une île de l'archipel des Tonga. Bligh se méfie des habitants de cette île. Son précédent voyage avec Cook lui a appris qu'ils étaient imprévisibles. Il envoie Christian à terre avec quelques matelots pour chercher de l'eau douce et des provisions. Ils ont des armes, mais ont pour ordre de ne pas les utiliser. Rapidement, les autochtones se montrent agressifs à leur égard.
Ils devinrent si gênants que M. Christian, qui commandait la corvée d'eau, jugea difficile d'accomplir son travail. S'en étant ouvert au lieutenant Bligh, il se fit traiter par celui-ci de lâche. Comme M. Bligh lui demandait si lui, un homme armé, il avait peur d'une bande de sauvages nus, M. Christian lui répondit
« Les armes ne sont d'aucune utilité tant que vos ordres interdisent de s'en servir. »
Une fois de plus, le jeune second se trouve injustement traité par son chef. Quelques jours plus tard, le commandant Bligh, déjà contrarié par le fait que bon nombre de marins se soient constitués des réserves personnelles de vivres en faisant du troc avec des autochtones, s'aperçoit qu'il manque des noix de coco dans ses propres réserves. Il explose et finit par accuser les officiers de les lui avoir dérobées.
Il demanda à chacun combien ils en avaient acheté, Quand il fut à M. Christian, celui-ci répondit
« Je ne sais pas, monsieur, mais j'espère que vous ne me croyez pas assez vil pour m'être rendu coupable d'avoir pris les vôtres. »
M. Bly répondit
« Si, damné chien, je le crois. Vous avez dû les voler, sans quoi vous seriez plus à même de m'en donner le compte. Dieu vous damne, canaille. Vous êtes des voleurs et de connivence avec l'équipage pour me voler. Je vous en ferai voir, gredin. » Et je ferai sauter la moitié d'entre vous par-dessus bord avant que vous n'arriviez au détroit d'Endeavor. »
Après avoir vociféré insultes et menaces, Bly s'apaise et semble même oublier son emportement. Le soir même, il convie à sa table Christian pour dîner et il s'étonne que celui-ci décline l'invitation. Ce soir-là, Fletcher Christian est effondré, à bout de nerfs. Il est aperçu en larmes, errant sur le pont. En pleine nuit, il se met à construire un radeau, déchire tous ses papiers et rassemble quelques provisions. Désespéré, il s'apprête à se lancer dans un projet aussi insensé que suicidaire. Il veut se laisser dériver jusqu'à l'île la plus proche. Mais cette nuit-là, l'aspirant George Stewart le retient et le dissuade de mettre son projet à exécution. À la place, il le convainc de s'emparer du navire.
L'équipage est mûr. Il fera n'importe quoi.
La mutinerie va avoir lieu quelques heures plus tard seulement. Elle n'a pas été mûrement réfléchie ni planifiée. Cette rébellion est l'acte d'un homme déprimé face à un capitaine qui, obnubilé par l'argent et la rentabilité de son voyage, a fini par faire le vide autour de lui. Nous voilà donc arrivés à ce matin du 28 avril 1789. Fletcher Christian recrute à la hâte ses complices parmi ses plus proches amis juste avant l'aube.
Il fit d'abord part de ses intentions à Quintrell et Martin. Tous deux qui avaient été fouettés par le lieutenant l'approuvèrent et allèrent trouver Churchill, qui avait lui aussi goûté du chat à neuf queues. Thompson, Smith, William et McCoy se déclarèrent également en faveur de M. Christian. Et ils se rendirent, accompagnés de Churchill, auprès de l'armurier, Coleman, à qui ils demandèrent les clés du coffre à armes, sous prétexte qu'ils avaient vu un requin tout près du navire. Les clés furent produites immédiatement et le petit groupe fut armé, ainsi que tous ceux qui se trouvaient là, sans qu'ils ne sachent pourquoi.
Sur les 45 marins présents à bord du Bounty, 8 seulement prennent réellement part à la révolte. Quand le capitaine Bly est conduit sur le pont, en chemise de nuit, les mains attachées dans le dos et les fesses à l'air, la plupart de l'équipage assiste médusé à la scène, sans trop comprendre ce qui se passe. Sur le pont règne une grande confusion.
Le comportement des officiers au cours de ces événements fut d'une indescriptible lâcheté. Aucun d'eux n'ayant jamais fait la moindre tentative pour récupérer le navire. Tentative qui aurait certainement été couronnée de succès, car parmi ceux qui étaient en armes, il y en avait qui ignoraient ce dont ils retournaient.
Bly est détenteur de l'autorité, mais il s'est fait détester. Christian est en train de commettre un acte d'une gravité extrême, passible de la peine de mort à l'époque, mais il est populaire. La plupart des membres de l'équipage laissent faire non par franche adhésion, peut-être pas vraiment par lâcheté comme le soutient Morrison, mais parce que cette situation inattendue les prend au dépourvu et les plonge dans un embarras profond. Voyant que personne ne vient à son secours, Bly tente de raisonner Christian. Que se sont dit exactement les deux hommes à cet instant crucial ? Les récits divergent. Voici ce que le commandant Bly racontera.
Malgré la dureté avec laquelle je fus traité, le souvenir de mes bontés passées parut causer quelques remords à Christian. Pendant qu'on me mettait de force hors de bord, je lui demandais si c'était là sa reconnaissance pour toutes les preuves qu'il avait eues de mon amitié. Ma question parut le troubler, et il me répondit avec beaucoup d'émotion.
Oui, capitaine Bly. Oui, c'est juste. Je suis en enfer, je suis en enfer. Je suis en enfer.
La version de l'un des mutins, Thomas Burkett, le second maître canonnier, est moins flatteuse pour Bly. Ceci n'a rien de surprenant.
J'ai entendu le commandant dire.
Au nom du ciel, monsieur Christian, réfléchissez à ce que vous faites. Renoncez à votre entreprise et il ne sera plus question de rien.
C'est trop tard, commandant. Qui l'a répondu ?
Non, monsieur Christian, il n'est pas trop tard. Je vous jure sur l'honneur que je ne dirai rien à personne de cette affaire. Je vous donne ma parole qu'on n'en entendra plus jamais parler.
Non, capitaine Bligh. Si vous aviez eu quelque honneur, les choses n'en seraient pas là. Vous savez bien que vous m'avez traité comme un chien durant tout le voyage. Depuis ces 15 derniers jours, ma vie a été un enfer et je suis décidé à ne plus le supporter.
Un enfer, le mot revient. Mais à quel point Christian est-il déterminé ? Éprouve-t-il un début de remords ? Lui seul le sait. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut plus reculer. Les autres mutins attendent de lui qu'il aille au bout. Christian commence à désigner les matelots et les officiers qui doivent monter dans la petite embarcation.
Edward, Alet, descendez dans la chaloupe.
Que vous ai-je fait, Christian, pour que vous me traitiez ainsi ? C'est à la mort que vous m'envoyez.
Les récriminations sont inutiles. Obéissez, ou sinon... Fryer, embarquez aussi.
John Fryer, l'ancien second qui avait été rétrogradé au profit de Christian, se montre loyal envers Bligh. Il tente même à un moment de reprendre le contrôle du bateau, mais il est rapidement maîtrisé et finit dans la chaloupe.
Homme d'équipage, si l'un d'entre vous veut se joindre à lui, qu'il se présente à la coupée.
À la surprise des mutins, près de la moitié de l'équipage fait finalement preuve de loyauté et demande à suivre le capitaine malgré les risques. On leur laisse rassembler quelques affaires avant d'embarquer. Fletcher Christian semble hésiter concernant le sort de certains marins. Alors que l'armurier Joseph Coleman et les deux aides du charpentier, Charles Norman et Thomas McIntosh, ont décidé de prendre place sur la chaloupe, il leur ordonne de rester, estimant qu'il aura besoin de leurs compétences. Ces derniers obtempèrent à contre-cœur et demandent au capitaine Bligh de se souvenir qu'ils ont été contraints à rejoindre les mutins, contre leur gré.
« N'ayez pas peur, les gars. Je vous rendrai justice si jamais je retourne en Angleterre. »
Ils sont 19 entassés dans cette chaloupe de 7 mètres, conçue pour accueillir une dizaine de personnes tout au plus. Du haut du pont, Christian regarde le petit esquif surchargé. Autour de lui, les mutins sont déchaînés.
Quelques-uns d'eux, parlant de moi, s'écriaient en jurant « Dieu me donne s'il ne trouve pas la route, si nous lui laissons rien emporter !» D'autres riaient en voyant la situation désespérée d'une pareille chaloupe. Quant à Christian, il avait l'air sombre. On aurait dit qu'il méditait sa propre destruction et celle de tout l'équipage.
À quoi pense réellement Christian à ce moment-là ? On sait que contre l'avis des autres mutins, il fait donner des vivres et 4 sabres aux occupants de la chaloupe. Il offre également son propre sextant et ses tables de calcul astronomiques au capitaine.
Vous avez votre boussole et ce livre sera suffisant pour faire ce voyage. Le sextant est à moi, vous pouvez être certain qu'il est bon. Maintenant, monsieur William Bligh.
Par ce geste, Christian laisse au capitaine Bligh une chance de regagner une terre amie. Ceci révèle peut-être les tiraillements intérieurs qui traversent le jeune officier à ce moment décisif de l'histoire. Les mutins n'ont aucun intérêt à ce que le capitaine et les autres témoins de leur révolte s'en sortent vivants et racontent ce qui s'est passé. En augmentant leurs chances de s'en sortir, ils se condamnent un peu plus à vivre dans la clandestinité à perpétuité. Mais pour l'heure, cela ne semble pas être un souci pour les mutins. Ces derniers prennent même un certain plaisir à prolonger l'humiliation de leur ancien capitaine en traînant au bout d'une corde derrière le Bounty la chaloupe surchargée.
Après m'avoir fait subir 1000 plaisanteries et m'avoir gardé ainsi quelque temps pour leur servir de jouet, ces indignes rebelles nous laissèrent enfin aller en dérive sur le grand océan.
Lorsque la mare entre la chaloupe et le Bounty est enfin rompue, les mutins savent qu'ils ne pourront jamais rentrer en Angleterre. Ils ne reverront jamais leur famille, leurs amis, la fiancée qui les attendait au pays. Ils viennent de tirer un trait définitif sur leur vie d'avant, condamnés à un exil perpétuel dans les marges du monde. Fletcher Christian se croyait en enfer sur le Bounty. Le voilà en quête d'un paradis qui le mettra à l'abri des foudres de la justice de son pays. Le défi qui attend le commandant Bligh et les 18 occupants de la chaloupe est tout aussi vertigineux. Ils n'ont quasiment rien à manger ni à boire. Aux antipodes de l'Angleterre, ils vont devoir naviguer sur leur minuscule embarcation sans carte à travers une mer encore très mal connue. Bien qu'ils soient devenus extrêmement vulnérables vis-à-vis des populations des îles alentours, il leur faut à tout prix toucher terre pour se ravitailler. Le capitaine Bligh et ses hommes aperçoivent au loin la fumée du volcan de l'île Tofoa qui s'élève dans le ciel. Cela leur fait un point de repère à suivre pour gagner cette terre. Après avoir ramé toute la journée, les marins atteignent la petite île. Ils y trouvent de l'eau et des fruits. Plus loin, ils obtiennent quelques denrées des premiers autochtones qu'ils rencontrent. Pour expliquer la perte de son navire, Bligh juge préférable de ne pas révéler qu'il a été la cible d'une mutinerie. Il préfère raconter que son bateau a fait naufrage et que lui et ses hommes ont besoin d'aide. Les habitants de l'île restent impassibles en apprenant sa mésaventure. Mais le lendemain, ils reviennent en nombre. Bligh sent monter une certaine hostilité.
Ils allumaient des feux et s'établissaient pour passer la nuit dans cet endroit. Ils tenaient conseil ensemble et tout me démontrait que nous allions être attaqués. J'envoyais ordre au maître de tenir la chaloupe accostée à terre lorsqu'il nous verrait descendre, afin que nous puissions tous embarquer promptement.
Sous le regard menaçant des autochtones, les Anglais regagnent au plus vite la grève avec les provisions qu'ils sont parvenus à glaner. Une pluie de pierres s'abat alors sur eux. Tous parviennent à atteindre la chaloupe, sauf le quartier-maître Jean Norton, touché par un projectile. Les marins, pourchassés par leurs assaillants, n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leur compagnon à son triste sort. Ils ne sont plus que 18 sur la chaloupe. Bligh comprend que sans objet à échanger, il sera impossible d'obtenir des vivres et que cette scène se reproduira avec les habitants des autres archipels. Il annonce à ses hommes son intention de ne plus faire d'escale.
Nous ferons route vers un port où nous pourrons embarquer pour l'Angleterre immédiatement. Nous ferons route sur Timor.
Pour atteindre la colonie hollandaise du Timor, ils vont devoir parcourir plus de 6000 km avec le peu de provisions qu'ils ont à bord. Il va falloir réduire les rations journalières drastiquement.
Promettez-vous de vous soumettre sans murmure à ces privations ?
Oui, nous le jurons !
Mes amis, il faut aussi oublier nos torts réciproques, nos antipathies et nos haines. Sacrifier, en un mot, nos rancunes personnelles à l'intérêt de tous qui doit seul nous guider.
Tous promettent au capitaine de se tenir à cette ligne de conduite. En échange, Bligh jure à ses hommes de les ramener vivants sur l'île de Timor. Durant les premiers jours, la petite embarcation affronte orages et tempêtes. Le manque de place à bord contraint une partie des hommes à s'allonger dans le fond de la chaloupe quand les autres rament.
Lundi 4 mai. Le temps fut très mauvais. La mer encore plus élevée que la veille. Mais de toutes les peines que nous avions à endurer, celle d'être toujours mouillé était l'une des plus cruelles. Les nuits étant froides, le matin, tous nos membres se trouvèrent engourdis et nous avions peine à remuer.
Les jours se suivent et se ressemblent. Les marins affrontent les éléments sans la moindre protection.
Vendredi 8 mai. Temps fort pluvieux toute l'après-midi, avec tonnerre et éclairs. Chacun tâcha de ramasser de l'eau et nous parvînmes à augmenter notre provision jusqu'à 120 pintes.
Après avoir frissonné de froid toute la nuit dans leurs vêtements trempés, au matin, le soleil fait une brève apparition.
Nous pûmes nous mettre nus pour faire sécher nos habits. La ration de cette journée fut une once et demie de cochon salé, une cuillère à café de rhum, un quart de pinte d'eau de coco et une once de biscuits. Le rhum, quoiqu'en petite quantité, fit grand bien.
Chaque jour, les portions sont scrupuleusement pesées. Les hommes sont tenaillés par la faim. Il supplie le commandant qu'on augmente les rations. Celui-ci refuse catégoriquement. La situation est d'autant plus cruelle qu'il passe régulièrement à proximité d'îles luxuriantes qui regorgent de nourriture, mais celles-ci sont habitées.
Nous étions presque mourants de faim, avec l'abondance devant les yeux. Mais il y avait un danger si imminent à chercher là quelque soulagement à notre misère que nous préférâmes la supporter, tant qu'il y avait une lueur d'espérance de pouvoir arriver au terme.
Bligh avance et tient son cap. Ne disposant d'aucune carte, pour établir la direction à suivre, il se fie à sa mémoire et à son sextant. Le 24 mai, une sterne qui a le malheur de passer trop près de l'embarcation est attrapée.
Cet oiseau est à peu près gros comme un petit pigeon. Je le partageais, y compris les intestins, en 18 parts. Et on employa pour fixer les parts la méthode usitée en pareil cas par les matelots anglais, avec le cri « À qui cette part ?» Et l'oiseau fut dévoré, os et tout, avec de l'eau de mer pour sauce.
Pour maintenir le moral de ses hommes, Bligh raconte des histoires qui lui sont arrivées en mer. Il demande aux marins de chanter et parfois de prier. Fin mai, juste après avoir franchi la barrière de corail, les marins aperçoivent une petite île. Le rivage étant désert, ils décident de s'y risquer. Ils accostent et trouvent de l'eau potable et des huîtres. Cette terre providentielle gagne immédiatement le surnom d'île de la Restauration. Quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle escale en territoire inhabité, une dispute éclate entre Bligh et le charpentier William Purcell. Bligh saisit un sabre et le provoque en duel. Fryer ordonne alors à l'un des matelots de mettre le capitaine Bligh aux arrêts. Celui-ci menace de le tuer s'il intervient. Mais ce qui commence à ressembler à une nouvelle mutinerie retombe vite. Après cet accès de violence lié à la fatigue, tout le monde revient à la raison. La chaloupe reprend la mer. Le 11 juin, Bligh ne peut que constater l'état pitoyable dans lequel se trouve son équipage.
Une débilité extrême. Des jambes enflées. Des physionomies maigres et défaites. Une envie continuelle de dormir et l'esprit sensiblement affaibli. Tels étaient les tristes symptômes qui me présageaient leur prochaine dissolution.
Les marins sont à bout de force. Bligh consent à augmenter un peu les rations des hommes les plus mal en point. Heureusement, le calvaire est sur le point de s'achever. Le 12 juin au soir, les marins anglais aperçoivent enfin l'île de Timor.
Je ne serai pas d'exprimer la sensation délicieuse que nous éprouvâmes tous à cette vue si désirée de la terre. Avoir pu gagner la côte de Timor en 41 jours depuis l'île de Tofoa, avoir fait cette route de 3 618 000 marins dans une chaloupe ouverte et, malgré notre extrême disette, n'avoir pas perdu un seul homme de toute cette traversée, c'est un événement auquel il est presque impossible d'ajouter foi.
Bligh vient de démontrer une fois de plus qu'il est un navigateur hors pair. La traversée de plus de 6600 km qu'il vient d'effectuer à bord de cette minuscule embarcation est reconnue aujourd'hui par les marins du monde entier comme un véritable exploit. Mais l'épreuve est si extrême que deux passagers de la chaloupe meurent quelques jours seulement après être arrivés. Il s'agit de David Nelson, le botaniste, et Thomas Hall, l'un des cuisiniers. Bligh met tout en œuvre pour regagner au plus vite l'Angleterre. Quelques mois après son retour au pays en octobre 1790, il comparaît, comme le veut la loi, devant une cour martiale pour répondre de la perte de son navire.
Capitaine William Bligh, la cour a examiné les charges contre vous et a conclu qu'il n'y a pas lieu de vous tenir responsable de la perte du navire de Sa Majesté que vous commandiez.
Nous ne saurions blâmer un officier qui a imposé la discipline selon les articles du code.
En conséquence, vous êtes très honorablement acquitté.
William Bligh est acquitté. L'histoire de ce marin, abandonné en pleine mer avec la moitié de son équipage, émeut l'opinion publique. à tel point que l'amirauté décide d'envoyer un navire de guerre, la Pandora, à la recherche du Bounty et de ses mutins afin de les ramener pour les juger. Au moment où la Pandora quitte l'Angleterre, le 7 novembre 1790, à l'autre bout du monde, les mutins se sont scindés en plusieurs groupes. Fletcher Christian et ses plus proches acolytes ont trouvé une petite île déserte, paradisiaque, où se cacher pour le restant de leurs jours.
Voici notre position à une dizaine de milles près. La mer partout.
C'est quoi ce bout de terre qu'on voit, lieutenant ?
Ça, c'est l'île de Pitcairn. Elle se trouve à 170 milles à l'est.
Ils ont débarqué sur cette île avec un petit groupe de Polynésiens et de Polynésiennes. Ils aspirent à vivre heureux sur ce petit morceau de terre coupé du monde. Mais le rêve ne va pas tarder à virer au cauchemar. C'est cette histoire vraie de survie que je vous raconterai dans un prochain épisode. In Extremis, histoire de survie, est un podcast original de France Inter.